Je ne suis pas un diplomate, mais je ne suis pas non plus Madame Soleil.
L'Auvergnat n'a jamais désespéré. Et d'ailleurs, il suffit de lire Astérix pour s'en rendre compte.
J'ai perçu chez deux ou trois ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler des odeurs d'égout.
Comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard.
Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Institut, historien et président de l'Institut Pierre Mendès France.
Non, je ne le suis plus.
Vous ne l'êtes plus depuis longtemps. Enfin, vous l'avez été.
Oui, je l'ai été, oui.
Vous êtes auteur de biographies, également de références sur Mitterrand, Giscard, De Gaulle. Et donc aujourd'hui, cette biographie de Pompidou qui sort à quelques jours du 50e anniversaire de sa mort, qui est une réédition avec une mise à jour. On vient d'entendre le président Pompidou. Est-ce que ce qui séduit chez Pompidou, quand on l'écoute, c'est d'abord sa langue, et vous devez y être nécessairement sensible, Éric Roussel?
Oui, c'est sa langue, et puis je pense aussi l'humanité qui se dégage de son personnage. Au fond, Pompidou a succédé à De Gaulle, c'était une tâche écrasante, et il en était d'ailleurs bien conscient. Il a eu, je crois qu'on peut résumer son action en disant qu'il a voulu poursuivre ce qu'a fait De Gaulle, même s'il y a eu entre eux une rupture d'ordre affectif. Mais disons qu'il a voulu apporter au gaullisme une note humaniste, et puis quelque chose de plus concret, de plus près des Français. Voilà.
Éric Roussel, Pompidou, 50 ans après, c'est des livres, des téléfilms, des documentaires, et surtout la sympathie des Français qui l'ont connu, génération après génération. Comment vous expliquez cette affection ou cette forme de nostalgie? Je ne sais comment qualifier cela.
Ben, la nostalgie, elle s'explique aussi par le fait que cette période, que le quinquennat de Pompidou, puisque le septennat a été interrompu par la maladie, cette période se confond avec la fin de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, c'est-à-dire une période d'expansion qui fait rêver aujourd'hui. Et donc je crois que c'est ça, c'est à la fois le personnage, ce que je disais tout à l'heure, et avec cette humanité, et puis c'était une période aussi, c'était post 68, c'était une période où il y avait encore beaucoup de liberté, je crois que ça joue aussi dans l'appréciation qu'on a du personnage. C'était, il y a moins de contraintes, il y avait pas moins de contraintes qu'aujourd'hui, moins de normes, etc. Donc ça fait un ensemble. Le personnage et la période.
Et c'est vrai que chez Georges Pompidou, qui était un homme de droite, même s'il vient d'un milieu socialiste au départ, il y a une synthèse assez extraordinaire entre le modernisme, les libertés. On l'entend sur l'affaire Gabriel Russier, où finalement on sent que son cœur penche pour la liberté, pour peut-être aussi une liberté de mœurs. Il y a une cohabitation chez Pompidou entre les valeurs de droite et les valeurs libertariennes.
Exactement. Mais ça s'explique par son... par le fait qu'il était, vous avez souligné qu'au départ il a été socialiste. J'ai le souvenir moi d'avoir, j'ai vu Pierre Mendès France l'avant-veille de sa mort pour parler de Pompidou. Et il m'avait dit, ils avaient fait tous les deux partie d'une ligue antifasciste qui s'appelait la Ligue d'Action Universitaire Républicaine et Socialiste. Et Mendès France m'avait dit, moi j'étais déjà radical, mais Pompidou était un socialiste, mais un socialiste vraiment, il était nettement à ma gauche. Bon, ça a l'air anecdotique. Mais ça explique quand même un certain nombre de choses. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est quand même resté toujours dans le républicain, enfin, et attaché à des valeurs populaires. Et puis, il y a une autre chose aussi qui a beaucoup compté, notamment en mai 68, c'est son... vous l'avez dit, c'était d'une certaine façon, et on voit bien quand on lit son livre, Le Nœud Gordien, c'était un conservateur assez assumé. Mais ce goût qu'il avait pour la culture contemporaine lui a donné des clés de compréhension de l'époque. Et ça a beaucoup joué en mai 68, où il a été, on peut le dire, pratiquement le seul politique à évaluer lucidement la situation et à voir qu'on ne pouvait pas la régler uniquement en termes de maintien de l'ordre. Et quelques mois avant mai 68, il y avait eu, souvenez-vous, le film de Godard, La Chinoise, qui était un film assez déconcertant, Et Pompidou organisait à Matignon des séances de cinéma avec des amis. on avait projeté ce film. Les amis de Pompidou étaient un peu étonnés, enfin, ils ne savaient pas très très bien à quoi s'en tenir. Et Pompidou avait dit, oui, bon, c'est sûr que c'est une sorte d'objet non identifié, mais c'est quelque chose qui, ça préfigure au fond un monde qu'on n'arrive pas encore à définir. Et donc, quand l'événement est arrivé, il ne s'est pas trouvé pris complètement au dépourvu. Et je pense que c'est ça aussi qui est au cœur de cette nostalgie. C'est quelqu'un qui comprenait, qui avait à la fois des valeurs, oui, de droite, on peut dire, certainement.
Il comprenait l'après.
Oui, c'est ça, voilà.
Il comprenait le siècle voilà. qui venait.
Et puis, c'était aussi, quand même, il avait des... Bon, il était devenu un Parisien, et même... Enfin, il y a toute une... Même, c'est un peu même caricatural. Il aimait beaucoup la vie parisienne, etc. Mais il avait quand même conservé des racines provinciales. Il savait ce qu'était la France.
Ah, c'est un paradoxe. Il est socialiste, il vient d'un milieu agricole. À Paris, il est quasiment le seul étudiant de Normale Sup à s'acheter un smoking, voilà. Ce qui est un pass pour entrer dans le monde et se faire des fréquentations. Donc, il est à la fois très terre-à-terre, il est copain avec Senghor. Senghor qui est Action française à l'époque,
Action française,
ce qui est un peu improbable pour un étudiant noir à Paris dans les années 30. Bon, enfin, c'est un autre...
C'est Pompidou qui le convertit
à autre chose. Et en même temps, il est ce président auquel on devra le Centre Pompidou d'art contemporain qui porte son nom. Guillaume Tabar rappelle ce matin dans Le Figaro, je l'ai cité, Pasquins, que Pompidou a été 6 années Premier ministre et 5 ans président. Quand on évoque le pompidolisme, on prend donc les 11 ans ou on ne prend que les 5 années du septennat?
Non, je crois qu'il faut envisager la période où il a été Premier ministre, parce qu'il a été un grand Premier ministre, il a été un des plus grands. Et c'est lui d'ailleurs, au fond, qui a défini les contours de la fonction, et c'était pas si facile face au général. Alors le général s'occupait pas de tout, c'était un homme d'intervention rare mais éclatante, donc ça laissait tout de même à Pompidou beaucoup de choses. Le général s'occupait essentiellement de l'action extérieure, à un moment quand il y avait des problèmes graves comme l'Algérie ou la Constitution au début, bon, évidemment il voyait ça de très près, mais au fond pour tout le reste, qui était quand même relativement large, sous réserve d'une sorte de droit d'évocation du président de la République, Pompidou jouait quand même un rôle important. Mais quelquefois, c'est vrai que De Gaulle aussi le rappelait à l'ordre. Il y a eu le plan de stabilisation de 63. Parce que Pompidou était un ancien banquier, donc l'inflation, il avait tendance à penser que c'était au fond un mal un peu nécessaire. Et le général, lui, était plus classique. Et donc, il y a eu un rappel à l'ordre. Oui.
Éric Roussel, biographe de Georges Pompidou, je vous renvoie à sa biographie, Georges Pompidou. Vous parlez d'économie, Éric Roussel. On parle beaucoup de l'état des finances publiques aujourd'hui. J'ai jeté un œil au budget 1974 qui prévoyait un excédent de 8,5 milliards de francs. En euros, ça donnerait aujourd'hui 6,5 milliards d'euros d'excédent. À la fin des années de Gaulle, la dette française représentait 15% du PIB. Alors qu'elle en représente 110% aujourd'hui. À la mort de Pompidou, cette dette française représente toujours 15% du PIB, à comparer donc avec l'endettement d'aujourd'hui. En clair, les finances publiques étaient mieux gérées sous Pompidou?
Sous Pompidou, mais là il faut remonter quand même en amont, c'est-à-dire il faut remonter à 1958. Et en 1958 d'ailleurs, alors là il était simplement directeur de cabinet du général de Gaulle, qui était le dernier président du Conseil de la 4e République. Et là justement Pompidou a joué un rôle important aussi dans l'œuvre de redressement financier autour avec des gens comme Rueff, etc. Donc c'était une entreprise, j'allais dire, de longue haleine, parce que quand ils sont arrivés en 58, l'état des finances publiques était très 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 dégradé.
Vous qui avez fait la biographie de Giscard, qui avez fait des biographies de Mitterrand, est-ce que vous pensez qu'il y a une génération d'hommes politiques et de chefs d'État français pour qui un sou était un sou, et qu'après, ce rapport aux finances est devenu plus conceptuel et plus abstrait?
Je pense aussi, si vous voulez, que il y a eu une rupture. Les trois premiers présidents, De Gaulle, Pompidou, Giscard, bon, au-delà des différences de sensibilité, des ruptures qu'il peut y avoir entre eux, etc., il y a quand même l'idée que la France, au fond, passe avant les Français. C'est quand même un peu ça. À partir de 81, c'est vrai que les choses, c'est une constatation. C'est un peu inversé.
C'est une formule.
Je ne dis pas que la France, que Mitterrand ne se fichait de la France, c'est pas ça du tout. Mais on était plus attentifs aux désirs immédiats des Français.
Voilà. Fut un temps où la France passait avant les Français dans l'esprit de nos présidents. Quelles sont les réussites de Pompidou que lui doit-on encore aujourd'hui? Parce que les choses s'effacent, mais il y a des choses qui restent.
Vous voulez pas parler en terre. Bah, d'abord, on lui doit, après De Gaulle, d'avoir maintenu les institutions, parce que ça n'allait pas de soi. Et c'était tout l'enjeu de l'élection présidentielle de 1969.
La continuité républicaine.
Son adversaire, qui était le président du Sénat, qui était président de la République par intérim, Madame Poher, qui était d'ailleurs donné gagnant au début. Les premiers sondages le donnaient gagnant. Donc, et lui était partisan d'un retour dissimulé à la 4e République. Il voulait un président arbitre. Donc Pompidou a pérennisé les institutions. Il les a présidentialisées aussi. Il faut insister là-dessus d'ailleurs. Parce qu'on dit, on parle aujourd'hui de la présidentialisation à outrance, etc. Si vous lisez le Nœud gordien de Pompidou, qui va être réédité dans la même collection que j'ai préfacé, il y a un passage très précis où Pompidou dit à l'avenir, les présidents de la République n'auront plus le charisme, enfin la même équation personnelle que le général de Gaulle, donc ils n'auront d'autre solution que de s'affirmer par une action quotidienne. Et si Jacques Chaban-Delmas avait pu lire ce livre, qui a été un livre posthume, il n'aurait évidemment pas fait le discours de Nouvelle Société, il l'aurait surtout communiqué à Pompidou.
Éric Roussel, est-ce que Pompidou a aujourd'hui des héritiers? Est-ce qu'il y a des comparaisons à faire ou finalement c'est un autre temps, d'autres mœurs, d'autres hommes?
Je pense que c'est un autre temps, qu'il y a des... Bon, mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a une certaine unanimité finalement, au-delà des clivages partisans, autour de sa mémoire. C'est assez... ce qui contraste quand même avec l'époque où il était aux affaires, où il avait une popularité importante, mais enfin, il avait des adversaires très, très déterminés.
Vous citez Pompidou en avant-propos de cette biographie de référence. Que mon nom soit mentionné ou ne le soit pas n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que mon mandat soit pour la France une période de sécurité et de rénovation, de bonheur et de dignité. C'est tout Pompidou, ça.
Oui. Mais il faut pas croire non plus, parce que on a tendance à dire la période Pompidou, oui, c'était le bon temps, il a bénéficié d'un contexte très favorable. Bon, c'est vrai, mais il faut aussi comparer, par exemple, avec ce qui s'est passé dans le même temps dans un pays comparable comme la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, à la même époque, plongeait dans le déclin et la crise permanente, alors que la France était tout de même, voilà. Donc, on peut en conclure que Pompidou a peut-être eu quand même un certain mérite.
Pompidou, par Éric Roussel, membre de l'Institut Historien. C'est paru chez Perrin, édition augmentée des archives de Pompidou. Je vous signale également la parution du dictionnaire de Georges Pompidou par Christine Manigan et Olivier Cibre chez Robert Laffont. Les leçons de Pompidou par David Lisnard et Christophe Tardieu chez l'Observatoire. Un cadavre sur la route de l'Élysée chez Flammarion. L'affaire Markovitch racontée par Hervé Gattegno qui se lit comme un polar. Et puis ce soir sur France 3 à 21h, Pompidou ou la cruauté du pouvoir. Vous êtes concerné dans cette affaire. C'est un documentaire de Jean-Pierre Côté. Voilà. Merci Éric Roussel.
Merci.
À bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse du susmentionné Hervé Gattegno, suivi de Nos Esprits Libres, Routel Krief et Marc Lambron, Radio Classique.